nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Réussi. Ce n'est pas facile avec les hommes. Mais si c'est facile. Ce n'est pas difficile. Il demande si peu. Elle revient à son bureau et travaille. En même temps, elle pense à Frédéric. Et se dit que les hommes ne sont pas tous pareils. Frédéric, lui, respecte les femmes. Malgré son homosexualité, il est peut-être le seul à vraiment nous aimer. Peut-être parce qu'il nous aime pour ce que nous sommes. Il nous met sur un piédestal. Oh, pauvre Frédéric. Elle a du remords pour ce qu'elle a fait ou va lui faire. Ne méritait pas ça. Mais les ordres sont les ordres. Elle sacrifie Frédéric, mais elle va leur faire payer aux autres ce que va souffrir Frédéric, ce qu'il va subir. Elle décide, c'est de lui rendre ses derniers jours les plus agréables qu'elle peut. L'invite à un concert le soir. Pour lui faire plaisir, elle s'est habillée et coiffée pour être la plus belle, pour qu'elle soit fière d'elle. Pour qu'il soit fier d'elle. Elle porte une robe bleue, roi, du soir, avec un collier, des boucles d'oreilles en or. Les chaussures et la pochette sont en même tissu que celui de la robe. Elle s'est faite un chignon bien tiré en arrière. En allant vers lui, elle lui dit, vous vous habillez pour vous faire plaisir. Je veux que vous soyez fiers de moi. Il lui dit, mais je suis fier de vous. Je suis fier de vous. Après le concert où il n'a fait que de la regarder, il lui dit « Tu es belle comme une madone !» Elle lui sourit. Pour lui faire plaisir, elle lui dit « J'aimerais, il s'entendit pas, c'est voir où tu habites. » Il lui dit « Ce n'est pas grand-chose, j'habite l'appartement de mes parents, un vieil appartement. » Elle lui demande « Tu me le montres ?» Si tu veux. Il l'a fait rentrer dans sa voiture. Lui aussi entre. Puis, il met la voiture en marche. La voiture s'est arrêtée, boulevard Saint-Germain, au pied d'un immeuble bourgeois, d'un vieil immeuble bourgeois de 4 étages. Ils sortent de voiture. Puis, il va la faire entrer dans son allée. Mur, tapisserie beige, moulure blanche, grand escalier de pierre. Il lui dit, c'est au deuxième, nous n'avons pas d'ascenseur, parce qu'avant il fallait avoir 5 étages pour en avoir un. Il monte jusqu'au 2e étage. Arrivé au 2e étage, il va ouvrir une grande porte en bois moulu, celle de l'appartement de gauche. Il ouvre, éclaire, entre et entre. Viens, je vais te faire visiter. Hall d'entrée avec armoire pour mettre les vêtements. En face, porte vitrée pour le salon. À gauche, la cuisine. À droite, un petit bureau. Petite pièce meublée Louis XVIII. Le parquet craque. Il y a une petite bibliothèque. Elle lui dit, c'était le bureau de mon père. Je ne m'en sers pas. Il lui montre le salon. Très grande pièce à 2 fenêtres, cheminée en pierre, meublé Louis XVI. Il y a une porte à deux battants qui mène à la salle à manger. Encore plus grande pièce, meublée Louis XV. Et une porte qui donne à un petit couloir. Il y a des portes qui donnent aux chambres. Il y en a trois. Chambre et deux salles de bain. Viens, je vais te montrer ma chambre. Et en réalité, c'est ici que je vis. Il ouvre la porte éclair. La pièce est immense et divisée en deux. Une coin chambre avec un lit à une place, armoire, table de chevet, chaises et commodes meublées Louis XVIII, en bois très costaud. L'autre coin, c'est un coin, disons, bureau, avec rayonnage bibliothèque jusqu'au plafond, une chaîne IFI, un bureau, deux fauteuils. On peut s'asseoir et puis de vieilles armoires de maison. Il lui dit, voilà, c'est ici où je vis la plupart du temps. C'est mon refuge, c'est là que je rêve un bon monde. Et il dit, je n'y suis pas. Il lui dit, tu te trompes, bien au contraire, tu es la bonne fée. Et il dit, c'est ici que tu rêves de rencontrer. Il dit, oui, bien sûr. Elle regarde des livres. Tu as lu tout ça? Oui, pourquoi? Parce que c'est bizarre. À notre époque, il lui dit, tu te trompes. La misère redonne le livre à la mode. Les gens n'ont pas les moyens, peuvent s'en acheter un pour se distraire, même à des prix pas trop chers. Des livres de poche, par exemple, d'anciens livres de poche. Certains ont compris et se lancent dans l'édition bon marché. Des livres à des papiers pas trop chers, grossiers, mais à des prix très raisonnables. Elle lui dit, c'est ici que tu rêves. Je n'aurais jamais pensé que toi, tu sois si fragile. Parce qu'à ton travail, tu fais sûr de toi, sérieux. Il lui dit, faut bien jouer un personnage pour vivre. Et toi, elle lui dit, moi, tu as raison. Je joue la comédie, moi, comme tout le monde. Elle se dit, mais je suis plus forte que les autres. Toi, tu es si fragile. Elle a honte de ce qu'elle va faire. Elle lui demande, comment tu as fait pour débarquer à Franblanc? Il lui répond, par hasard, je cherchais du travail. Je me suis présenté, ils m'ont pris de suite. Comme chef, oui, j'ai des diplômes, je peux être directeur commercial, mais comme la place était déjà prise, je me suis retrouvé dans ce service. Tu n'as pas envie de changer de boîte? De ses épaules, il lui dit, non. Pourquoi? Et puis les places sont rares. Et toi?
Moi, je viens d'arriver. Mais j'ai l'intention, c'est de faire une bonne carrière chez eux.
Il lui dit, monter les échelons, ce n'est pas évident. À moins que ton chef de service ne meure. Il sourit et lui dit, ce serait moi.
Elle regarde sa montre et lui dit « Il faut que je rentre. »
« Oui, bien sûr, je te raccompagne. » Ils se lèvent et sortent de la chambre. Le mardi soir, elle sort du siège et va attendre Cordex au feu. Après 5 minutes d'attente, il arrive. Il va questionner et la court vers lui. Il ouvre la portière et s'engouffre dans la voiture et la met en route. Pas trop excité, elle regarde surprise et lui dit
« Non, pourquoi ?»
Il lui dit « Parce que vous êtes avec moi, un inconnu qui pourrait vous violer. Parce qu'en fait, vous ne connaissez même pas. » Elle lui dit « Je saurais me défendre. » Il sourit et la voiture file. Il l'amène à Versailles. Il a arrêté sa voiture dans un petit chemin devant l'entrée d'un petit bois.
Vous sortez ?
Elle sort. Lui aussi. Il fait beau, encore soleil. Il lui dit « Marchons un peu. » Elle le suit. Elle lui demande
« Parlez-moi de votre femme. »
Il lui dit « Et vous, de la vie avec votre père ?» Elle lui dit
« Il n'y a pas grand-chose à dire. Mon père travaillait beaucoup. » Je le voyais presque pas. Je crois qu'il m'aimait beaucoup parce qu'il ne m'aurait pas, se serait pas encombré de moi. Il parlait peu, était taciturne. Un soir, il a eu un comportement bizarre. J'avais 18 ans. Il est venu à moi. J'étais assise au salon. Il m'a dit « Il faut que tu partes. La vie ici est trop dangereuse. Va à l'étranger, change de nom. C'est la seule façon pour pour que tu sois heureuse. » Je lui ai demandé pourquoi. Il ne m'a rien dit. Ou il m'a dit simplement « parce que le monde est malade et qu'il va se préparer de quelque chose de terrible. Je ne veux pas que tu y sois, que tu y participes. » Je lui dis « Et vous êtes parti ?»« Non, je ne comprenais rien à ce qu'il me disait. Je suis resté. » Il lui demande « Et que vous est-il arrivé ?» Elle lui dit « Comme à tout le monde. Et vous ?» Il lui dit « Moi, rien. Rien d'intéressant. » Elle lui dit « Vous êtes marié ?» « Oui, à une femme qui a 10 ans de plus que moi. Malade. » Et comme elle est malade, je ne peux pas divorcer.
Elle a une maladie grave?
Oui, une maladie des os qui se déforme. La maladie de Pagès. Il n'y a rien à y faire. C'est une maladie très longue et très grave. Qui fait beaucoup souffrir. On ne la soigne pas, mais on lui donne des calmants. Elle est soignée chez moi. Elle se transforme, enfle à certains endroits. Sa tête est devenue une chose monstrueuse. Vous connaissez le film Elephant Man?
Oui.
Eh bien, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'avant, elle était très belle. Très belle. Et petit à petit, elle est devenue ce monstre. Elle souffre de son état et a un caractère impossible. Chaque fois que je rentre, c'est un enfer. Elle me fait des scènes de jalousie terribles. Et dire que lorsque je l'ai connue, elle ne me voulait pas. Parce que elle me trouvait laid. Mais je l'aimais comme un fou. Jour, elle a accepté de m'épouser. Elle savait qu'elle avait contracté cette maladie, et qu'elle était perdue, que personne ne voudrait d'elle. Alors, elle m'a dit, cela, ça ne se voyait presque pas. J'ai dit oui. Et maintenant, je me dis qu'elle s'est donnée à moi, parce que personne ne la voudrait, qu'elle ne vaut plus rien. La garce. Si elle n'avait pas eu cette maladie, elle m'aurait toujours repoussé. Avec dédain. Je la déteste. De m'avoir fait ça. Des fois, je souhaite sa mort. Que je puisse être libre et heureux.
Elle lui dit. Divorcer.
Il lui dit. Elle ne voudra jamais. Vous me prendrez pour un monstre d'abandonner une malade. Ne parlons plus de tout ça. Elle se dit,
décidément, les deux hommes que j'ai à remplacer ont tous les deux de gros problèmes. Quel métier ! C'est plus des victimes qu'autre chose.
Après avoir marché un moment, il lui demande « Soyons-nous un moment, cela nous fera du bien. » Ils s'assoivent tous les deux dans l'herbe, au pied d'un arbre. Il la prend dans ses bras, se penche. « Vous avez de très jolis seins, vous savez. » Il la palpe et met sa main dans l'échancrure du corsage. Elle se laisse faire. Il faut bien qu'il puisse s'amuser un peu. Thank you.
demi-heure plus tard, il lui dit « Je crois qu'il est l'heure d'aller au restaurant. » Il se lève et le suit. Sortent du petit bois pour reprendre la voiture. Ils entrent dans la voiture. Et il met la voiture en marche. La voiture s'est arrêtée devant une demeure du siècle dernier, au fond d'un parc. C'est le restaurant. Le même où M. Pontoise était invité à manger par le jeune comédien. Ils sortent de voiture. Et vont vers l'entrée du restaurant hôtel. Le décor n'a pas changé, on l'a rafraîchi plusieurs fois, mais de la même façon. Table avec nappe blanche, chaise tapisserie Louis XV, fleurs à table, petit orchestre, serveur, maître d'hôtel, qui vont, viennent à pas mesurés. Il y a du monde. Le maître d'hôtel, un grand homme chauve, vient vers eux. « Vous désirez, messieurs, dames ?» Il lui dit « J'ai réservé une table pour deux personnes, monsieur Cordex. » L'homme regarde son écran. « Oui, veuillez me suivre. » Et ils le suivent. Il les mène dans une table ronde où il y a deux couverts. C'est au fond de la pièce, un coin tranquille. Ils s'assoivent. Le maître d'hôtel fait signe à un de ses hommes qui vient apporter les cartes. Ils choisissent. Volupté au cresson, lapin chasseur, pommes de terre vapeur avec des petits pois. Pour le dessert, ils verront. Le sommelier vient. Cordex choisit les vins qui conviennent. Moi, je dis Bourgogne, mais enfin, elle lui dit, je me demande comment fait un restaurant pour avoir autant de nourriture à proposer. Avec toute cette misère que nous avons, il lui dit, ils ont un jardin et des fermes. Et puis, ce sont de vieilles maisons. Cela fait peut-être 150 ans qu'ils sont... restaurateurs, ils ont des habitués. Elle lui dit, très riche. Oui, très riche. Et heureusement qu'il y a encore des gens qui ont des moyens pour se payer quelque chose, parce qu'il y aurait encore plus de chômage. Elle lui demande, vous êtes de droite? Non, je suis logique. Et puis, si vous observez bien, la plupart des gens que nous voyons ici sont d'un certain âge. En vieillissant, ils ont de moins en moins de plaisir à cause de leur santé, de la dégradation du corps. Il ne reste plus que le plaisir de la bouche. Si leur estomac, le foie, les laisse tranquilles. Tous leurs organes vont à l'abandon.
ne les jugez pas trop. Ils n'ont que cette joie. Il lui prend la main et lui demande. Qu'aimez-vous le mieux? Jouer avec votre corps ou autre? Elle lui répond. Pour le moment, j'aime mieux me nourrir. Il sourit, il lui dit. Vous voyez, mais après, j'espère bien. Elle lui dit. Nous verrons. Le repas se continue. Et ils arrivent au dessert. Ils ont commandé une charlotte et du café. Cordex se lève et lui dit « Tu es allé voir pour une chambre. Il y en a à l'étage. Elles sont très bien. » Il va à la cueille où se trouve un homme aux cheveux blancs. Cordex lui dit « J'aimerais une chambre, s'il vous plaît. » L'homme regarde sur son ordinateur et lui dit « Malheureusement, nous n'en avons plus. »
« Même pas pour une heure ?»
L'homme lui dit, « Même pas pour une heure, c'est mardi. »
« Et alors ?»
« Le mardi, c'est jour congé pour les enseignements. Ils en profitent. » Il retourne vers Judith et lui dit, « Il n'y a plus de chambre. » Elle lui dit,
« C'est pas bien grave, une autre fois. »
« Oui, mais maintenant ?» C'est maintenant que j'ai envie, elle lui dit.
Vous attendrez.
Et ils sortent du restaurant.
Vers la voiture. Ils entrent dans la voiture.
Il lui demande « Qu'est-ce qu'on fait ?» Elle lui dit « Nous rentrons. Il est tard. »
Et il met la voiture en route.
Pendant qu'il roule, ne peut s'empêcher de regarder ses jambes. Elle a une jupe très courte. Il soupire. Elle le voit soupirer. Il met la main sur sa cuisse et la lui caresse. Elle écarte les jambes et lui prend la main et la met entre ses jambes, sous sa jupe. Elle lui demande « Ça va mieux comme ça ?» Il lui dit « Vous savez ce qu'il faut faire ?» Elle lui dit « Regardez la route et faites attention en conduisant. » Il lui dit « C'est un peu compliqué. Il serait plus simple, c'est de s'arrêter. »«
Non, j'ai pas le temps. »
Il lui dit « Mais vous vivez seul. Vous n'avez rien à faire jusqu'au lendemain matin. » Elle lui dit
« J'ai ma chatte qui m'attend. »
Il lui dit « Et la tienne qui m'attend. » Tu n'as pas de slip, hein? Elle lui dit, pourquoi faire? Tu vas tout tacher. Non, je ne veux pas que tu mettes les doigts. Je vous permets certaines choses, et vous voulez toujours aller plus loin. Il lui dit, c'est difficile. Et il continue à rouler. Arrivé à Paris, il a toujours la main. Il lui demande, on va chez toi? Elle lui dit, non, je ne peux pas.
Pourquoi?
On ne se connaît pas assez. Nous ne sommes pas assez intimes pour que tu viennes chez moi.
Il lui dit, et ça alors, c'est pas de l'intimité?
Elle lui dit, mon gynécologue ne vient jamais chez moi. C'est pas un de mes intimes.
Il lui dit, tu n'es qu'une égoïste. Et qu'est-ce que je fais, moi?
Elle lui dit, oh, ça va, arrête-toi.
Et il va s'arrêter dans une petite rue déserte.
Elle se penche, lui ouvre la fermeture à glissière.
Le sort, il est raide et bouillant. Il soupire. Elle le masturbe un peu. Il se contorsionne. Elle se penche et ouvre la bouche.
Un quart d'heure plus tard, il a mouillé, il a giclé sur le tableau de bord. Il le nettoie avec son mouchoir. Elle lui demande, ça va? T'as plus l'impression d'avoir perdu ta journée? Il lui dit, j'aurais mieux aimé que ce soit plus normal. Elle lui dit, plus tard, tiens, le jour où j'aurai une mutation. Il lui dit, tu pourras toujours attendre. Parce que, pour en prendre une, faut que tu prennes la place de ton chef. Et il est jeune et en bonne santé.
Elle lui dit, alors, je n'ai fait qu'un rêve. Ramène-moi chez moi.
Et il remet la voiture en route.
Il lui dit, c'était que de moi, mais j'y peux rien.
Elle lui dit, c'est pas grave, j'attendrai.
Il lui demande, et moi aussi?
Elle sourit et lui dit, ça ne dépend pas de moi, ça dépendra de mes appétits.
Il a arrêté la voiture devant chez elle. Sur la joue.
Merci pour cette merveilleuse soirée.
Il lui demande, nous reverrons quand?
Elle lui dit, tu aimes les enterrements, je crois.
Il lui demande, lequel? Celui de ton chef ou de ta femme? Ou de ma femme?
Elle sourit et lui dit, je plaisantais. J'aime beaucoup mon chef.
Et elle sort de voiture.
Il la regarde entrer dans son immeuble. Et met sa voiture en route. Elle entre chez elle. Ferme la porte. Elle est épuisée. Va dans la salle de bain. Enlève sa robe. Ses bords noirs. Elle était nue sous sa robe. Il y avait juste les bords. Et prend sa douche. Quel sale type, avec ses mains dégoûtantes. Puis, elle sort de la baignoire. S'essuie, se met un peignoir de bain blanc, et sort de la salle de bain. Va au salon. Prend sur la table basse un paquet de cigarettes et un briquet en or. Elle veut fumer pour se détendre. Une fois la cigarette allumée, elle se met à marcher. Sans pas, réfléchit, soupire. C'est moi qui suis une garce. Lui est un pauvre type, marié à une folle. Et Frédéric est le plus gentil garçon qui soit. Et moi j'ai reçu l'ordre de tuer ces deux-là. Et je vais le faire, parce qu'il le faut. Si au moins je pouvais me marier à l'un des deux. C'est impossible pour les deux. On dirait que c'est fait exprès. Ils vont tout droit vers la nuit, sans défense. Ils ne savent pas qui je suis, quel métier je fais. Et après eux, qui ? Et après ? Peut-être moi ? Ils n'aiment pas laisser de traces. Et moi vivante, je devrais disparaître et tout laisser tomber. Mais non, ils me retrouveraient et mettraient une autre à ma place. Pourquoi mon père m'a-t-il fait? A-t-il fait partie de ça? Et pourquoi leur a-t-il donné sa fille? Il m'aimait, paraît-il. Il m'a donné à eux pour que je devienne une tueuse professionnelle. Arrête de divaguer. Ce ne sont que deux êtres humains. 10 de perdus, 1000 de retrouvés. Il ne faut pas faire de sentiments. Les jours passent, la vie reprend. Un matin, Frédéric va la voir pour lui apporter le courrier de la journée. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.